Vous écoutez
RMC.
Un partout, on a vu le point serré d'Alvaro à Arbeloa, également heureux d'égaliser face à Xabi Alonso, coach des Blues. Tiens, je vous ai pas demandé vos crashs également, à part Julien, lui, qui voit Aston Villa se crasher complètement cette saison Première Ligue. Edgar, c'est quoi ton crash, toi, en Liga cette saison?
Moi, je m'inquiète énormément pour le Rayo Vallecano, qui était pourtant en finale de Conference League l'année dernière. Moi, je pense que le Rayo Vallecano soit va descendre, soit va se maintenir ric-rac. En tout cas, je serais surpris de les voir plus haut que la 15e, 14e place. Ils ont perdu leur coach Inigo Pérez, qui faisait des miracles avec pas grand-chose. Là, ils commencent la saison, ils sont même pas dans leur stade, parce que le stade est tellement vétuste que c'est devenu un danger public. Donc, ils ont plus le droit de jouer dedans, donc ils jouent à Leganés. Enfin, c'est vraiment un fiasco. Leur effectif, ils ont perdu des bons joueurs aussi. Pep Chavarria, Nobel Mendy. Donc, honnêtement, moi je suis.
On n'est pas sur un crash spectaculaire. T'as raison, ça fait finale et tout, mais on n'est pas sur un crash spectaculaire. Tu m'annonces pas, si tu veux, le crash de la Real Sociedad ou de.
D'être en finale, par exemple. D'être en finale européenne et de descendre l'année d'après, ce serait quand même incroyable.
Ok. Bon, c'est de le vendre, pourquoi pas. C'est quoi ton crash, toi, Daniele, cette saison en Serie A?
Ben, c'est Naples, je sais pas si on va en parler après, mais voilà, ils ont pris Allegri.
Alors garde-le, je le dirai dans un instant. Ouais. Naples qui a gagné ce week-end, on en parlera avec notamment un but de Kevin De Bruyne, 35 ans. Polo, ton crash attendu au Bundesliga, selon toi, l'équipe qui va imploser?
Alors il pourrait y en avoir beaucoup, mais je vais prendre un risque et je vais dire pour sa deuxième saison, le club d'Hambourg.
Ah bon?
Je peux l'expliquer d'une façon très simple, c'est que on a souvent parlé avec Julien l'année dernière. Vuskovic en défense centrale n'est plus là, et Vieira, le milieu offensif qui a tenu l'équipe lors de la deuxième partie de saison, n'est plus là non plus. Et je suis déjà intimement persuadé qu'Hambourg allait, je pense qu'il ne se serait pas maintenu l'année dernière si Vuskovic et si Vieira n'avaient pas été prêtés. Évidemment, ils ont fait un recrutement que je trouve intéressant, notamment via les Français, Adeline qui arrive de Troyes et Nadir qui est venu gratuitement de Marseille.
Terem Mofi qui arrive aussi là, mais bon, j'y crois moins.
Mais il y a Borneuf qui est pas mauvais, enfin qu'on connaît, l'international belge qui a joué déjà à Wolfsburg notamment et à Cologne. Mais moi, j'ai vu encore évidemment cet après-midi le match de Coupe d'Allemagne. Donc Hambourg officiellement l'emporte 3-0, sauf qu'au bout de 40 minutes, expected goal 0,06 contre une troisième division, ça la fout mal quand même. Et je me pose vraiment des questions sur l'évolution de ce club. C'est-à-dire que c'était un club qui était collectif. Et quand on voit le talent de Vuskovic et ce qu'a réalisé Vieira en fin de saison l'année dernière, eh ben, on voit pourquoi ils se sont sauvés. Et cette année, je me dis que malgré les recrues qui sont arrivées, si ça prend mal, alors ils ont une chance. C'est que Paderborn et Elversberg sont là, qui sont quand même des équipes de seconde division. Schalke est monté, ils sont en train de jouer en ce moment. Mais je pense que si je dois prendre un risque, ce serait soit Cologne, soit l'Union, soit Mönchengladbach, mais je vais dire Hambourg.
Bon, voilà pour Polo, le crash de Polo, Hambourg. Gros club allemand, bien sûr, hein, gros public, gros stade.
Exactement.
On va suivre ça. Le Barça n'a pas tant à perdre, mon cher Edgar. Première journée. Boum, 5-0 pour commencer. On y va. Rafinha qui met déjà un doublé, c'est ça.
Dire que c'est cadeau souvent, Elche.
Parce
que les portes elles sont ouvertes. Mais oui, non, très très bonne entrée en matière pour eux. Même si et c'est ça qui est presque le plus rassurant. Tu gagnes 5-0 en ayant fait, j'ai envie de dire, un demi-match, parce que la première période elle est pas dingue et pourtant t'arrives quand même à 2-0. Elle est même très poussive. Ils avaient même pas la possession sur les 45 premières minutes parce que c'est aussi le jeu d'Elche qui veut ça et que ils étaient hors de rythme. J'en parlais pour le Real Madrid aussi, avec des joueurs qui forcément ont pas tous énormément de semaines d'entraînement dans les jambes, donc c'est un très bon retour pour eux. Et surtout, moi ce que je voulais souligner, c'est le match d'un joueur comme Fermín López. Souvenez-vous quand même qu'il s'est blessé en fin de saison dernière au pied, qui rate la Coupe du Monde alors qu'il aurait eu un rôle ultra ultra important avec l'Espagne, quand tu vois que Dani Olmo a été titulaire toute la compétition et que Fermín López initialement était devant lui dans la hiérarchie. Et le match qu'il fait, mais c'est un match de patron, d'un gars qui a envie de montrer qu'il est toujours là, dans l'engagement, dans l'intensité qu'il met sur tous les ballons. Alors à la fin en plus il met un doublé, mais j'ai envie de dire c'est même pas ça le plus important, c'est tout ce qu'il fait avant. Et j'avais vraiment envie de dire chapeau à lui, parce que pour un premier match comme ça face à Elche, où il pourrait se dire oh là là, c'est tellement nul à côté de ce que j'aurais pu vivre à la Coupe du Monde, gars il revient et il montre qu'il est toujours là, et je trouve que c'est une très très belle réaction. Et en plus de ça, pour le Barça, et encore une fois je trouve pas qu'il fait un match exceptionnel, mais le résultat est là derrière, et il va leur donner la confiance. T'as les recrues qui ont fait des bonnes entrées pour Gordon, un bon match pour Adeyemi, surtout Gordon qui fait une super entrée.
Adeyemi qui marque son premier but avec le Barça en Ligue 1 déjà.
Ouais, qui marque. Alors lui, bon, c'était pas parfait ce qu'il a fait, mais à l'image de l'équipe en première période. Mais surtout Gordon qui rentre, qui fait deux passes décisives tout de suite. C'est une très très bonne nouvelle pour le Barça pour la suite.
Et Rafinha resitué sur le terrain, plus axial.
Oui. Dans l'axe, je pense qu'il va beaucoup jouer dans l'axe. Alors sur les saisons précédentes et surtout l'année dernière, il y avait des moments où il avait joué presque milieu offensif avec toujours un joueur devant. Mais là, il était vraiment attaquant axial quoi. Sur ce match-là, je pense que ça va être un rôle qu'il va beaucoup occuper pendant la saison. Ça va être intéressant.
Prévu sur le mercato le départ de Ferran Torres, Lewandowski. Et il y a quoi comme autre solution pour jouer en neuf là? Il y a le jeune Hamza Abdelkarim là qui a brillé pendant la préparation estivale, qui a mis 4 buts en 5 matchs. Mais quoi d'autre?
Il va être très important. Après, je pense aussi que tu as des joueurs qui vont venir l'épauler. Un joueur comme Gordon, faudra aussi qu'il reste pas collé non plus à sa ligne.
Il peut jouer
neuf
aussi, Gordon.
Voilà, c'est ça.
Il a joué avec Newcastle, il a joué neuf déjà aussi.
C'est ça, donc je pense que Flick aussi il a envie d'avoir une équipe, mais c'est à la mode avec, on en parle souvent avec Luis Enrique, mais il a aussi envie d'avoir une équipe avec des joueurs qui peuvent jouer à plusieurs postes, un petit peu partout,
et je pense que c'est
un petit
liquide,
sa philosophie, peut-être d'avoir un Lamine Yamal aussi qui marque un petit peu plus. Alors Lamine Yamal lui il a connu un match très compliqué face à Elche, mais à mon avis l'idée de Flick c'est vraiment d'avoir une ligne offensive avec des joueurs qui permutent énormément, qui bougent énormément, et un Rafinha qui oui est dans l'axe, mais qui va aussi permuter avec d'autres joueurs, y compris et à commencer par Gordon.
J'ai une question pour Edgar.
Vas-y, Daniel.
Est-ce qu'il pense que le fait que Lamine Yamal il a beaucoup grandi, 13 cm un peu de moins, ça lui change la biomécanique et peut-être ça va changer.
Très bonne question, Daniel.
Non mais c'est une très bonne question et c'est vrai que je disais des choses sur ça, des gens qui commencent à s'inquiéter sur ce sujet-là, et je pense qu'on devrait peut-être se renseigner, peut-être en parler avec un médecin du sport, avec quelqu'un qui pourrait nous expliquer exactement ce que ça change, parce que forcément j'imagine que ça peut changer beaucoup de choses. Après moi j'ai pas l'impression de l'avoir vu sur les derniers mois ne pas être capable. Alors oui il a eu des blessures et je pense que c'était surtout lié à ça, mais quand je vois le niveau qu'il avait à certains moments de cette saison quand il était un petit peu épargné par les blessures, je suis pas particulièrement inquiet. Mais effectivement, je pense que ça vaudrait le coup vraiment d'en parler avec un spécialiste qui pourrait nous expliquer ou pas ce que ça change pour un joueur, parce que notamment au niveau du centre de gravité, au niveau de la vitesse, etc., ça peut changer la donne. Et c'est un sujet très très intéressant qu'il va falloir suivre effectivement.
Croissance récente là à 19 ans, 3 cm environ. On dit qu'il est 1,78, ça en a 1,80 quoi. En tout cas, il va peut-être atteindre le 1,80 à 19 ans la minimale. C'est intéressant. On parle d'un, c'est quand même
ça
fou.
Peut être un
sujet, ce qu'on raconte, c'est fou quand même. On parle d'un des plus grands joueurs du monde déjà établi, on dit qu'il est en train de grandir, quoi. C'est merveilleux, quand même. C'est unique dans l'histoire du football. Est-ce que la Bundesliga va grandir? En tout cas, Fribourg, mon cher Polo, tu voulais. Naze, elle est forcée la transition, les gars. Je suis désolé.
C'est après les vacances.
C'est après les vacances, exactement. En tout cas, et la Bundesliga également, qui perd du monde. Hein. On a parlé de Manzambi, tu adores Polo, l'international suisse. Yann Diomandé est parti pour 140 également au Real Madrid. Il est entré en jeu ce week-end, notamment. Touré aussi. Qu'est-ce que ça raconte du modèle allemand qui pourtant est vertueux et riche aussi?
C'est ça le gros problème, c'est que j'essaie d'expliquer ça depuis quelques années et certaines personnes n'arrivent pas à le comprendre. Le football allemand n'a jamais été aussi riche, sauf qu'il y a un championnat qui est plus riche que la Bundesliga et il y a quelques rares clubs européens qui sont aussi plus riches que la majorité des clubs de Bundesliga. Et on observe, j'en parlais avec Najib cet après-midi, tu vois Touré, qui part pour 50 millions. Moi, je veux bien, on me dit que c'est un super espoir, mais est-ce qu'il a porté Hoffenheim l'année dernière? Non. Hoffenheim s'est qualifié pour une compétition européenne très bien. Diomandé, il est resté un an, c'est la culbute financière, évidemment, pour Leipzig, que tu passes de 20 millions, je sais plus à combien il est vendu, 125 ou 140 avec les bonus, etc.
Bonus,
et donc, en fait, c'est la culbute. Et ce qui est intéressant, c'est que la Bundesliga, et on va parler de Fribourg en particulier, parce que c'est assez passionnant à ce niveau-là, ne peut pas rattraper ce genre de joueur. C'est à Manzambi, Fribourg est allé le chercher en Suisse à 16 ans. Tu peux le faire une fois tous les 5 ans, tous les 10 ans, ce truc-là, tu peux jamais, ça marche rarement que ça fonctionne, tu peux pas le remplacer en un contre un, etc. Ce que je trouve extraordinaire, et on va prendre le cas de Fribourg, c'est que tu perds Manzambi. Mais qui connaissait Manzambi l'année dernière? Manzambi, il a vraiment explosé parce qu'il y a eu des blessures, on l'a mis dans le 11 de départ, Suzuki, l'international japonais, était blessé, il a pris sa place, et puis petit à petit, durant la saison, il a fait une excellente saison, il est vendu pour 60 millions, jackpot pour Fribourg. Sauf que Fribourg ne fait pas des transferts à 60 millions, ne peut pas aller chercher des joueurs de ce montant-là. Donc ils commencent à faire des transferts à 10 millions d'euros. Les gens ont oublié, mais le record, l'ancien record de transferts de Fribourg, c'était un Français, c'était Santa Maria à l'époque où il était à Angers, si je raconte c'est pas ça, n'importe quoi. Santa Maria, c'était 10 millions. Ils l'ont revendu l'année d'après à Rennes, 14, parce que ils voulaient absolument faire la plus-value. On était là. Et donc tu te retrouves avec un club de Fribourg qui chaque année va perdre, on va dire un peu comme tout le monde, ses meilleurs joueurs, mais avec une rapidité qui s'accélère. Enfin, ils ont Manzambi qui est parti, regardez Merlin Reul, grand espoir du football allemand, qui n'a même pas, quasiment pas joué pour Fribourg. Il était déjà prêté en première ligue avec une option d'achat de 25 millions. Donc tu vas dépasser les 100 millions de ventes cette année pour Fribourg. Donc ne nous faisons pas de soucis pour les finances et l'économie de Fribourg. Ils vont exploser leur chiffre d'affaires cette année, évidemment avec la finale de l'UEFA, et en plus avec leur transfert en 2026-2027, ça va être pareil. Et moi, c'est un club qui, à 10-15 ans, il faisait entre 30 et 50 millions d'euros. Là, ils vont arriver à 250. Et on va te dire, oh, mais quel club, mais comment ça se fait? Mais les joueurs ne veulent pas venir. C'est quand tu payes 30 millions, 40 millions d'euros, ils voudraient pas venir pour ces montants-là. Mmh. Fribourg ne veut pas les payer. Et l'autre problème qui est encore plus loin, c'est que Fribourg a tellement ils ont deux effectifs en ce moment, Fribourg. Donc je vais la faire très courte pour résumer. Tu as la star Manzambi qui part et tu la remplaces par deux excellents joueurs mais qui valent 10 millions chacun. Et donc tu te retrouves au bout d'un moment avec un effectif monstrueux de 30 joueurs qui pourraient quasiment être tous titulaires, et tu te retrouves de l'autre côté avec le modèle de Fribourg qui était basé sur la formation, avec des joueurs qui ont encore été titulaires il y a 4-5 ans et qui aujourd'hui ne retrouvent plus de place et sont vendus en seconde division, voire en première division, ou alors à l'étranger pour des montants relativement modiques. Et c'est un vrai problème, moi je trouve, dans le modèle, enfin qui est un peu débile aujourd'hui en Europe, c'est que tout ce que pompe la première ligue, tu ne peux pas. Encore une fois, j'en parlais avec Philippe Auclair, donc il y a longtemps, l'ancien drôle de dame, il y a longtemps, où je disais le vrai problème des championnats européens n'est pas de faire partir les joueurs en première ligue, c'est qu'on peut pas les récupérer. Parce que les joueurs ont des salaires tellement monstrueux qu'on peut pas les récupérer. Alors, la première ligue achète des joueurs exceptionnels et des joueurs qui se plantent lamentablement. On l'a vu avec Nkunku, par exemple. Mais c'est un vrai problème après pour les récupérer. Mais surtout, si tu as une bonne gestion, ce que je souhaiterais normalement n'importe tous les clubs européens ou souhaiterait quelqu'un d'à peu près normal, tu ne peux pas, cette croissance naturelle du club de Fribourg ne peut pas se transmettre, ne se transformer sur le terrain sur une équipe de plus en plus compétitive en dehors de la quantité et non pas de la qualité. Je trouve ça un truc, je suis moi extrêmement surpris que les économistes en parlent jamais, les grands économistes là qui ont des CV qui parlent de tout sauf d'économie. Je suis surpris que l'UEFA en parle pas, c'est qu'en fait, tu vas avoir des plafonds de verre naturels. Enfin, c'est extraordinaire, la finale de l'UEFA de l'année dernière de Fribourg. On l'attend pas au départ. On voit un huitième, un quart de finale, etc. C'est la quatrième année en cinq ans qui se qualifie pour une Coupe d'Europe. C'est un petit club allemand, je le rappelle, hein. 34 000 places seulement en Bundesliga. Et parce que le système est comme ça, qui de mon point de vue est critiquable, on ne peut pas, alors qu'on a du pognon à pas savoir qu'en faire, on ne peut plus récupérer des joueurs qui ont un statut au-dessus, parce que Fribourg, pour eux, évidemment, ça ne les intéresse pas.
Ça ne les intéresse pas. Après, ça pourrait les intéresser aussi, hein, avec l'argent engrangé grâce à leur parcours sportif, grâce à leur vente sur le mercato, mon cher Polo.
Mais non, c'est pas la politique, mais surtout la masse salariale sera en train d'exploser et il y aurait des risques à moyen terme.
Oui, voilà.
Ce qu'il faudrait, c'est que l'Espagne explose et que Fribourg récupère des clubs comme ça, ou que l'Italie explose et qu'on récupère des clubs comme ça. L'histoire d'Nkunku, c'est ça, en fait. Ouais, hein, il peut le récupérer comme ça. Mais ce qui est terrible, c'est que c'est un club qui génère année après année des bénéfices, qui bat des records de chiffre d'affaires, etc. Et ça ne se voit pas, entre guillemets, sur les superstars, parce qu'elles partent. Regarde, Diomande, Leipzig, ils sont contents comme tout, mais tu perds Diomande au bout d'un an.
Mais tu maintiens quand même une certaine compétitivité, mon cher Polo. Tu parlais de Fribourg, qui a fait 4 saisons Coupe d'Europe sur les 5 dernières, qui a fait une finale l'année dernière.
Oui.
Donc tout va bien pour l'instant. C'est géré sainement. On a quand même des résultats. Les supporters sont plutôt contents. Maintenant, t'as raison. Il y a une fatalité.
Faut changer le modèle.
Un plafond de verre qu'on peut pas défoncer.
Mais faut changer le modèle. C'est toujours pareil.
Ça, c'est pareil. Sinon, ça sert à rien. De toute façon, toujours le plus riche qui te désosse et qui recrache jamais les joueurs après, en l'occurrence. C'est le cas de la première ligue. Un but, Julien, a été marqué par Chelsea.
Chelsea a pris l'avantage. Ouais, Morgan Rogers, la recrue la plus chère de l'été en première ligue, on l'a dit déjà tout à l'heure, on l'a répété, sur un joli mouvement collectif encore. Je crois que c'est une passe de Cole Palmer, si je me trompe pas. Du côté droit. Et c'est vrai que cette attaque à 3, Joao Pedro, Palmer, Rogers, ça promet beaucoup.
Si Palmer se relance bien cette saison également après avoir mal fini la dernière. Xavi Alonso, la joie de l'entraîneur espagnol. Alors maintenant, tout de suite, la minute italienne. Daniele nous a fait rêver lors de sa première saison avec ses choix musicaux. Est-ce qu'il va prolonger? Est-ce qu'il a encore du goût, cet homme-là? Écoutez, c'est parti.
J'espère que vous aimez, c'est les mélodies de Franco Battiato dans cette chanson avec Alice qui s'appelle I treni di Tozer. Les trains des Tozer.
Le train de 2 heures?
Non, des Tozer, c'est une ville en Tunisie, d'accord. Je crois. Et bon, c'est parce que Andy Diouf, il a commencé sa saison avec deux passes décisives.
Wow.
Et les titres des meilleurs joueurs du match. En théorie, l'Inter a recruté Jed Spence pour être titulaire à droite, mais après la fin de la saison dernière, les matchs amicaux de l'été où Diouf il a par exemple il a marqué un joli but contre la Juventus, on commence à penser que peut-être il va, on ne sait pas, mais il va peut-être gagner sa place comme latéral droit. Alors il faut se rappeler que c'était un milieu terrain qui venait des Lens et qu'il est gaucher de pied, donc il était mis à latéral droit, gaucher de pied. Et il n'était pas son rôle, mais il est en train de bien faire. On ne sait pas ce qui va se passer, mais quand ils lui ont donné les prix, ils lui ont dit, en fait, tu sais, les supporters de l'Inter, ils t'ont déjà donné un surnom, c'est l'étrange. Et bon, ça pourrait se terminer là parce que c'était un joli surnom, ça m'a aidé pour choisir la chanson. Mais Diouf, qui a l'air d'un garçon tout à fait humble et sympa, il a dit quelque chose de pas humble du tout. Il a dit oui, mais bon, c'est pas mon surnom préféré. Moi, j'ai beaucoup de surnoms. Mon préféré, c'est le calcio, le football. Donc, imaginez que.
Ah, il se définit comme le football, quoi. C'est ça. Je suis le football, quoi.
C'est son surnom. Andy, le son football Diouf. Ouais, c'est un peu. C'est
quand football Diouf.
Ouais, voilà.
C'est bien. Le football Diouf. Ok, très bien, magnifique.
C'est la minute. Qu'est-ce qui va être sa saison.
Mais en tout cas, il a démarré fort. Pour l'instant, avec ses deux passes décisives. Voilà pour la minute de Daniele.